ici aux États-Unis, Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à Atlantic Council, basé ici à Annapolis. Bonsoir et bienvenue à vous. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le pays organisateur de cette COP, critiqué depuis des mois par des ONG et des parlementaires occidentaux pour sa double casquette de patron de la COP28 et également d'une compagnie pétrolière nationale. Et on parle également de l'absence des présidents américains et chinois dont les pays sont cités parmi les plus gros pollueurs du monde. D'abord, est-ce qu'on peut commencer par un commentaire sur l'organisation même de cette COP? D'abord vous, monsieur Mpanumpanu.
C'est une COP qui semble battre tous les records. Nous étions habitués à des COP qui réunissent entre 15 et 20 000 personnes. On nous a annoncé qu'ici, on atteindrait la barre des 70 000. Et pour finir, on a atteint aujourd'hui la barre des 100 000 participants. C'est bien, c'est une COP qui montre donc que cette question intéresse beaucoup de parties prenantes. Il faut qu'on soit plusieurs autour de la table, mais il faut que ce soit une COP qui soit porteuse de résultats et d'espoir. Il ne faut pas que ce soit une grosse foire où les gens viennent pour tourner en rond et partir d'ici sans résultat.
Docteur Campo, qu'est-ce qui selon vous rend cette COP aussi importante?
Déjà, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé, surtout au niveau de la société civile par rapport à la nomination du PDG de la société pétrolière. Et il y a aussi l'envoyé spécial de son pays pour le climat. Alors, sa nomination a créé un conflit d'intérêts selon nous, la société civile. Et, en fait, l'essentiel est que la COP28 doit conclure avec un engagement sans compromis sur une sortie de tous les combustibles fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz, car il n'y a pas de place pour ça. Et donc, on attend à ce que le gouvernement organisateur de la COP puisse vraiment montrer ce leadership pour dire qu'ils sont prêts pour aller vers les énergies renouvelables. En tant que Greenpeace, nous sommes très conscients de la question du plus de nombreux dirigeants politiques et économiques qui déclarent prendre des mesures pour résoudre la crise climatique. Mais bon, on va voir comment les actions concrètes vont faire avancer les choses cette COP.
L'ouverture a été en effet faite aujourd'hui même. Monsieur Seznec, un commentaire sur l'organisation même de cette COP?
Écoutez, c'est intéressant que la COP soit organisée à Dubaï, bien sûr, qui est un pays très pollueur, comme tous les autres pays du Golfe. Mais il est certain aussi qu'ils connaissent les problèmes extrêmement bien. Ils sont très bien organisés et j'espère en tous les cas qu'ils vont réussir à faire des progrès sur l'agenda de la lutte contre les sources fossiles. Mais il ne faut pas se faire d'illusions que les sources fossiles vont continuer à non seulement être utilisées, mais vont même augmenter parce que l'économie mondiale est en train d'augmenter. Alors il faut faire des efforts énormes pour le développement des ressources renouvelables et effectivement financer les pays sous-développés et les autres pays d'ailleurs pour augmenter énormément le renouvelable, y compris le nucléaire qui n'a pas été discuté jusqu'ici énormément.
La participation de l'Afrique suscite de l'intérêt et des questionnements à chaque COP, bien sûr. Et docteur Mathieu Mpanumpanu, vous représentez la RDC à cette conférence. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette conférence?
Déjà, je voudrais dire par rapport à la question précédente que les gens qui font partie du problème devraient venir dans la conversation pour faire partie de la solution.
Mais ils y sont, n'est-ce pas? Ils y sont, n'est-ce pas, ces gens?
Justement. C'est pour ça que pour moi, ce n'était pas un si grand crime que ça que le président désigné de la COP soit le président de la compagnie pétrolière. Ça montre au contraire qu'au lieu de jouer à l'autruche, il s'implique et il veut aider à trouver une solution. Cela dit, l'Afrique vient ici avec la même posture que précédemment. Nous sommes le continent le moins pollueur. Environ 4% des émissions globales émises, 3% si on prend l'effet cumulé. Nous sommes pourtant vulnérables face à ce changement climatique. Et nous sommes prêts à faire notre part en termes d'action dès lors que cette action est soutenue par du financement, du renforcement de capacité, du transfert de technologie. Aujourd'hui, certains pays sont producteurs de pétrole, sont producteurs de gaz. C'est un levier important pour essayer de réduire la pauvreté chez eux et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Leur demander de tout arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas réaliste. il faut qu'on aille dans une démarche de transition qui soit juste et équitable. D'autant plus que aujourd'hui, ces pays qui sont exportateurs de ces ressources fossiles ne les consomment pas. C'est le marché mondial, c'est les pays développés. Si eux arrêtent avec leur voracité, s'ils ne changent pas leur mode de consommation et de production, pourquoi est-ce que les pays qui ont du potentiel à s'enrichir en produisant du pétrole devraient ne pas le faire? Donc si jamais on veut effectivement que les pays africains arrêtent d'aller dans ce sens-là, il faut les aider à faire une transition juste et équitable et pouvoir développer leur potentiel en énergie renouvelable. Parce que 600 millions d'Africains, la moitié des Africains vivent sans énergie.
Donc c'est le message que vous apportez à cette COP, Monsieur Mpanoumpanou. Docteur Campo, parlant de Greenpeace, Greenpeace a lancé une pétition pour demander plus d'action de la part des leaders mondiaux et des grandes industries pétrolières et extractives. Comment comptez-vous mettre l'accent sur ce message lors de cette conférence?
Alors nous, nous sommes le continent le moins pollueur, mais nous ne sommes pas des victimes. Nous venons ici avec des demandes concrètes appuyées par des dizaines de scientifiques africains et des milliers de jeunes africains qui demandent une sortie totale et équitable des énergies fossiles. Une transition verte, une énergie propre et juste à travers les énergies renouvelables par un développement durable en Afrique. On a vu la limite de l'industrie fossile et nous savons que cette mentalité de néocolonialisme où on vient extraire les ressources en Afrique soi-disant nous aider à nous développer, ne marche plus. Alors, les Africains demandent une transition juste, équitable et maintenant. Nous avons cette lettre qui énonce un ensemble de demandes, notamment la suppression des subventions aux énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables. Nous voulons aussi le rejet de nouveaux investissements dans les énergies fossiles. On veut aussi la garantie de l'accès à une énergie propre et sûre pour nous tous en Afrique. On veut responsabiliser les pollueurs, la protection des puits de carbone et de la biodiversité comme dans le bassin du Congo. Et on veut aussi que les investissements forts, forts et durables soient vraiment énoncés ici avec, à travers les négociations que l'on va mener avec le groupe africain pour aller vers les énergies renouvelables. On ne peut plus continuer à financer les grandes sociétés pétrolières qui viennent et pillent les ressources en Afrique au détriment des peuples. Il faut que cela s'arrête. Nous sommes un peu liés à notre terre, à nos océans, à nos communautés et nous devons exploiter notre connexion avec la nature, les uns et les autres, pour avancer vers le futur. Et donc nous demandons cela au gouvernement, mais aussi à toutes les parties prenantes qui sont ici pour prendre des décisions. Nous ne voulons plus une COP où on vient, on s'assoit autour de la table des négociations et ensuite on sort avec des résolutions sans un plan de mise en œuvre. Nous voulons une feuille de route, nous voulons un plan, nous voulons vraiment que nos décideurs, les gouvernements africains poussent pour un plan de mise en œuvre pour tout ce qui est financement des activités liées aux énergies.
Et vous avez parlé de transition juste et équitable pour aller vers la réduction des énergies fossiles. Monsieur Mpanoumpanou également l'a précisé. J'aimerais écouter l'avis de Monsieur Seznek sur cet aspect. Une transition juste et équitable, vous y croyez, Monsieur Seznek?
Oui, effectivement, je pense que, comme disait le docteur, il est absolument nécessaire de faire une transition juste et équitable et la faire le plus vite possible. Je pense qu'une chose qu'il faudrait considérer, c'est non seulement investir dans des nouvelles usines solaires, etc., comme déjà l'Afrique en a déjà beaucoup, mais il en faut beaucoup plus, mais non seulement ça, il faudrait que l'Afrique et d'autres pays sous-développés deviennent des producteurs des panneaux solaires, par exemple. Tous les panneaux solaires maintenant, 85% des panneaux solaires sont faits en Chine. Mais il faudrait qu'il y ait un transfert de fabrique, si vous voulez, de fabrication de ces produits qui créent de l'énergie renouvelable dans les pays sous-développés, de façon à ce que ces pays sous-développés puissent devenir beaucoup plus gros producteurs. L'Afrique a un potentiel solaire énorme et il ne peut être fait, il ne peut être pris maintenant que si l'Afrique devient dépendante des pays qui produisent les panneaux solaires et d'autres technologies comme le vent ou le nucléaire. Mais il faudrait que l'Afrique devienne producteurs de ces produits qui font, qui vont développer les productions.
Et cette COP intéresse également nos téléspectateurs du côté de l'Afrique qui se sont prononcés sur la participation de l'Afrique. Sylvain Caboret nous dit que l'Afrique peut contribuer activement à équilibrer la demande croissante d'énergie diversement. L'Afrique, selon lui, regorge d'énormes potentialités énergétiques renouvelables comme l'énergie solaire qui peut constituer un atout majeur lorsque nous sommes dans une dynamique de nécessaire réduction à la dépendance aux énergies fossiles. Arcebispe Théodore de N'Djamena, la demande croissante d'énergie en Afrique est fonction du besoin et la nécessité de réduire leur dépendance aux énergies fossiles pourra se faire sur un grand investissement financier avec les partenaires fiables. Charles Bazema à Ouagadougou nous dit qu'il faut d'abord que les grandes puissances occidentales, américaines et asiatiques respectent leurs engagements vis-à-vis des précédentes COP, car trop de promesses, rien de concluant concernant le rôle de l'Afrique dans ces grands moments de prise de décision est minimisé, voire même négligé, car le continent dépend largement toujours d'aide des grandes puissances. Vous suivez Washington Forum, suivez Ouafrique, on se retrouve juste après cette pause.
Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
Sur VOA Afrique, nous parlons de la 28e édition de la conférence de l'ONU sur le climat, la COP28, qui a démarré aujourd'hui même avec nos invités, Dr Campo Uliketa, directrice Greenpeace Africa, qui nous rejoint de Dubaï, Tosin Panumpanu, spécialiste dans les domaines du développement durable et négociateur en chef pour la RDC à la COP28, et Jean-François Seznec, économiste, analyste politique ici aux États-Unis. L'insuffisance des investissements dans les pays en développement met en péril les efforts de réduction du réchauffement climatique. Et la question du financement a été largement abordée lors de la conférence de Nairobi sur le climat. L'Afrique veut être vue comme faisant partie des solutions, comme l'ont dit plusieurs dirigeants africains. J'ai envie de vous demander comment cela peut-il être possible avec le poids de la dette du continent. Monsieur Mpanumpanu.
Oui, déjà, une partie des contributions déterminées nationales que l'on a soumises en annexe de l'accord de Paris sont conditionnées. La RDC, par exemple, dit qu'elle va réduire ses émissions de 21% d'ici 2030, mais 19 de ces 21% sont conditionnés à un appui financier. Donc, quelque part, si on veut que l'Afrique fasse montre de plus d'ambition possible, il faut qu'il y ait un accompagnement. Alors, tout à l'heure, madame disait que nous ne venons pas dans une posture victimiste. Nous sommes effectivement proactifs et nous voulons que des démarches soient initiées pour que plus de financement soit mobilisé. Il s'agit par exemple, comme il a été pris comme décision lors de la pandémie de la Covid, d'utiliser des droits de tirage spéciaux venant des institutions de Bretton Woods, qui ont pu mobiliser à l'échelle internationale 11 000 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, qui était considérée comme une question existentielle. Pour nous, le changement climatique est également une question existentielle et il faudrait qu'on puisse devenir à de nouveaux moyens pour mobiliser plus de financement. Et l'Afrique, qui est un paradis pour les énergies renouvelables, voudrait, par exemple, à travers la déclaration de Nairobi, passer de 53 000 mégawatts installés à 300 000 mégawatts d'ici 2030. Donc l'Afrique veut venir au rendez-vous de l'action climatique. Mais l'Afrique se doit d'être accompagnée pour faire montre de son plein potentiel.
Qu'en est-il des promesses de financement lors des précédentes COP et également lors du sommet de Nairobi, M. Seznek?
Écoutez, il y a beaucoup de promesses, comme il a été dit un peu plus tôt dans le programme, et pas grand-chose qui se passe en réalité. Il faut vraiment créer un fonds qui soit efficace et qui marche et qui soit bien, qui reçoive beaucoup de fonds de tous les pays, et surtout des grands pays comme les États-Unis, l'Europe et la Chine. Mais je pense qu'il est très important aussi de ne pas oublier d'essayer de maximiser les financements par les grandes compagnies qui, à l'heure actuelle, ont beaucoup de capacités financières, comme les compagnies pétrolières, que ce soit les compagnies pétrolières européennes, américaines, mais aussi les compagnies pétrolières du Golfe, qui ont énormément d'argent, comme Aramco et la compagnie des Émirats. Mais je pense que, pour répéter un petit peu ce que j'avais dit un peu plus tôt, il faut penser que ces pays, ces compagnies privées pourraient investir des montants énormes pour créer les moyens de créer les productions, les usines de production d'énergie. Il faudrait des usines de panneaux solaires, des usines de d'hélices pour le vent. Il faudrait des systèmes nucléaires, et tout ça, ça peut être fait en partie, ça peut être fait aussi par le privé. Et ça, je pense qu'il faut y penser et ne pas se fixer uniquement sur les financements qu'on espère des autres pays. Je pense qu'il faudrait essayer de pousser le côté privé, si vous voulez.
Docteur Campo, un commentaire. Comment l'Afrique peut faire partie des solutions si on en attend autant des autres continents?
Effectivement, on ne doit pas attendre que les autres viennent nous développer ou créer des solutions pour nous. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous devons trouver des solutions en Afrique. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, le vent. Il y a beaucoup de ressources en Afrique que nous pouvons utiliser pour aller vers les énergies renouvelables. Alors, il faut des investissements de nos gouvernements. Donc, on doit d'abord voir comment on utilise nos propres ressources et maintenant aller vers le secteur privé pour avoir des fonds conséquents afin de créer des usines, afin d'être producteurs de tout ce que nous voulons comme énergie renouvelable. Et on peut le faire à travers la jeunesse africaine. Nous avons des jeunes qui sont là, qui ont des idées, qui ont des innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Comment on peut investir dans cette jeunesse qui a le know-how, qui a les technologies, mais qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce pour avancer, pour créer des solutions pour nous, pour nos communautés? C'est cela la question. Et c'est à travers ça que l'on peut vraiment dire qu'on avance vers tout ce qui est transition juste, mais aussi durable. Donc, on ne va pas compter sur l'Occident, on ne veut pas compter sur les fonds des Nations Unies ou de la Banque mondiale d'autres gouvernements. On doit commencer d'abord par nos fonds propres et par le secteur privé et investir. C'est que nous avons mobilisé des ressources. Et je sais que le continent est sur cette lancée parce qu'il y a le président Ruto qui est en train de créer ce nouveau partenariat avec le International Renewable Energy Agency. Et il vient de signer un gros contrat pour le Kenya avec le Danemark, l'Allemagne et le gouvernement de Dubaï. Et justement pour créer des solutions pour l'Afrique. Il y a des pays comme le Rwanda, comme la Sierra Leone, le Zimbabwe et d'autres qui sont dans cette lancée. Et donc nous pouvons le faire. Il faut seulement la volonté politique. Nous avons des opportunités. Nous avons les jeunes qui sont là. Nous avons des innovations. On doit aller vers l'investissement, vers les énergies renouvelables à travers nos jeunes, à travers tous les partenaires qui sont là à accompagner l'Afrique dans cette lancée. Et c'est cela qui va nous aider vraiment à sortir de cette crise climatique.
Monsieur Mpanoumpanou, tout au long de cette émission, on l'a dit, il y a des ressources dont dispose l'Afrique pour amorcer cette transition vers les énergies vertes. Mais l'Afrique a-t-elle aujourd'hui les moyens pour dire non aux énergies fossiles? Je sais que le sujet a un peu divisé lors du sommet de Nairobi.
Alors déjà, par rapport à la question précédente, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre onusien pour la gestion des changements. Et il y a une convention sur laquelle nous nous reposons, il y a des principes, et les pays développés qui sont essentiellement à la cause de ce changement climatique, qui depuis le milieu du 19e siècle se sont enrichis en prenant la majeure partie de l'espace astrosphérique, ont une responsabilité historique et ils doivent fournir du financement aux pays en développement. Je ne veux pas qu'on commence à inventer des choses, qu'on commence à être trop créatif. Il faut que les pays développés puissent mettre la main à la poche et respecter leurs obligations. Ça, c'est une chose sur laquelle nous sommes intransigeants. Alors, par rapport à la question qui divise l'Afrique, c'est vrai. Donc, je pense que chaque pays a des circonstances nationales. Et dans le cadre de l'accord de Paris, nous avons pris des contributions déterminées au niveau national, où certains pays ont par exemple dit, dans ma première période d'engagement de 5 ans, je vais continuer avec certaines subventions fossiles, parce qu'il n'y a pas d'accès à l'énergie dans les campagnes, il faut aider les gens à alimenter leur lampe à pétrole, et dans la deuxième phase, dans les 5 années après, je vais totalement sortir de là, mais je vais y aller de manière progressive. Or aujourd'hui, certains pays se permettent de nous pointer du doigt en disant « mais vous n'êtes pas assez ambitieux », alors qu'eux-mêmes ne savent pas prêcher par l'exemple. Donc nous, nous sommes un peu contre cette posture de deux poids, deux mesures, où nous disons que la Convention demande aux pays annexe 1 de faire montre de leadership dans l'action, aux pays annexe 2 de mettre la main à la poche, et ça va créer un espace de confiance pour que nous, à travers nos propres ressources nationales qui sont limitées, nous puissions également augmenter notre ambition climatique.
En un mot, vous dites non ou oui à cette question ?
N'oublions pas que nous sommes pauvres, nous avons des problèmes de développement, et on ne va pas se permettre d'être plus royaliste que le roi en essayant de sauver la planète alors que nous n'avons pas créé ce problème. En un mot, il faut laisser aux pays de déterminer le temps qu'ils prendront pour essayer de s'inscrire dans une transition que le pays estime être juste et équitable.
Merci. Monsieur Seznek, en un mot, oui ou non, l'Afrique a-t-elle aujourd'hui les moyens aujourd'hui de mettre fin aux énergies fossiles ?
Non, ils ont pas l'Afrique n'a pas les moyens en ce moment, mais je suis absolument content, je suis très, vraiment très heureux d'entendre ce que le docteur Campo Keïta disait, c'est qu'il faut vraiment compter sur la jeunesse, parce que les investissements, c'est investir dans sa jeunesse qu'il faut faire, parce que les solutions vont venir de l'Afrique elle-même, pour l'Afrique elle-même. Et je pense qu'essayer d'obtenir de l'argent des pays qui ont effectivement utilisé la nature pour leurs propres moyens dans le passé, je pense que ça ne va pas vraiment changer grand-chose maintenant, parce qu'ils vont pas, ils ont tous des problèmes locaux, ils ne vont pas faire grand-chose finalement pour les pays sous-développés. Les solutions Merci. Vont venir de l'Afrique. Et je pense que, comme Merci. Le disait le docteur Campo, c'est le futur, c'est la jeunesse.
Merci beaucoup. Malheureusement, c'est la fin de cette émission Washington Forum. Alessandrine Roland-Lognon à la présentation. Merci à vous qui nous avez rejoints depuis Dubaï. Je vous souhaite une bonne conférence. Et cette émission, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h temps universel sur VO Afrique et voafrique.com. Rediffusion samedi et dimanche.
Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions.